Bonjour. Maintenant, on va vous présenter le Léa Côte d'Or, qui est centré sur un projet, celui du développement de la culture scientifique et numérique et l'égalité des chances. Donc, on va vous présenter Bénédicte Mouret, qui est correspondante Léa, qui est chargée de mission dans l'Académie de Dijon. Agnès Gollet, qui est responsable du Centre départemental de ressources scientifiques et qui joue aussi un rôle important dans la coordination de l'ensemble et dans le travail effectif, et qui sera là pour réagir aussi à vos questions. Et puis donc moi, Michèle Prieur, qui suis correspondante IFE pour ce projet. Alors en fait, ce projet, il a été initié au départ par une demande de la DS2N de Côte d'Or qui souhaitait redynamiser dans son département l'enseignement des sciences, avec pour envie d'avoir une continuité entre l'école et le collège, dans l'idée de l'école du socle, et de s'intéresser en particulier aux territoires qui étaient socialement fragilisés. Donc elle a sollicité l'IFE, et au sein de l'IFE, en fait, il y a deux équipes qui se sont associées pour répondre à cette demande. D'une part, l'équipe Eductis SEHP, et d'autre part, le centre Alain Savary. Donc en appui sur leur expertise, puisque pour la première, elle travaille sur l'axe de didactique des sciences, des didactiques des mathématiques, de la culture numérique. Et le centre Alain Savary, lui, travaille sur les problématiques d'égalité des chances et de professionnalité. Ce projet, il a été présenté à la ville de Dijon, qui a été très intéressée pour entrer en tant que partenaire dans ce projet et qui a souhaité en fait qu'on intègre une autre continuité, qu'on s'intéresse au périscolaire et qu'on s'intéresse aussi à l'articulation, à la continuité entre le scolaire et le périscolaire. Donc ce projet, il a été initié en 2011. Et c'est à cette rentrée, en 2012, en fait, qu'on est rentré dans le cercle des Léa avec une spécificité, c'est qu'on était le premier Léa à l'échelle d'un département, en fait, premier Léa départemental. Alors, ce projet s'est implanté dans trois réseaux d'établissements, école maternelle, école primaire, collège et centre périscolaire, avec des spécificités, puisqu'en fait, il a pris appui sur l'existant. Donc appui sur l'existence, c'est-à-dire appui sur les projets d'école, appui sur les projets des centres périscolaires, sur leurs ressources et sur les ressources qui existent au centre départemental de ressources. Et il a pris appui aussi sur des demandes qui étaient celles de l'académie, c'est-à-dire qu'on travaille sur la thématique de l'eau. Et puis une proposition de l'IFE, c'était de travailler aussi sur les apprentissages fondamentaux en mathématiques. Donc on voit qu'on a eu des entrées spécifiques, mais avec des objectifs partagés qui étaient celui d'engager les élèves enfants dans le cadre du périscolaire, dans des démarches d'investigation qui prennent en compte le goût des sciences, le développement de l'esprit d'initiative et de l'esprit critique, la continuité des apprentissages et aussi les usages de surfaces tactiles numériques dans le projet. Alors, on a mis en place une recherche collaborative qui a pour objectif principal de produire des ressources qui soient pour l'enseignement et pour la formation. Alors ces ressources, c'est quoi? C'est d'une part des séquences d'enseignement, des séances d'enseignement qui ont été co-conçues par l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire des enseignants, des animateurs, des formateurs d'enseignants, des formateurs d'animateurs, des chercheurs qui ont travaillé donc pour produire ces ressources qui sont co-conçues, qui sont expérimentées en classe, qui sont révisées, de façon à ce que ce soit des ressources qui soient transférables, utilisables par d'autres acteurs. Donc on voit qu'en fait, on s'est appuyé sur les expertises spécifiques de chacun, sur les complémentarités, parce que chaque acteur est rentré avec des finalités qui lui sont propres en fait. Les enseignants, il s'agit pour eux de concevoir des situations de classe, les animateurs d'animer des projets culturels, d'accompagner leurs devoirs, les formateurs d'accompagner les enseignants, de concevoir des formations, et les chercheurs de comprendre les processus et d'accompagner les changements. Donc à partir de ces finalités, ces expertises, en fait, il y a tout un jeu de complémentarité qui permet de conduire une telle démarche, une telle recherche collaborative. Cette recherche collaborative, elle permet aussi d'élaborer des savoirs scientifiques, puisqu'elle permet de révéler des problématiques du terrain. Et ainsi, il y a quatre points qui sont particulièrement travaillés dans ce projet. C'est en fait, en mathématiques, une articulation entre deux outils, la pascaline que vous voyez en photo ici, qui est un objet mathématique qu'on manipule, et puis son environnement informatique sur les tablettes numériques, et cette articulation pour les apprentissages de la numération décimale et du calcul. C'est un autre axe qui est travaillé, c'est les représentations et les changements de registre sémiotique dans les activités de modélisation. quand on est en science, on va utiliser des graphes, des schémas, des dessins. Donc c'est ces passages en fait d'un registre à un autre. Et ça a été travaillé particulièrement avec une articulation mathématique et physique sur les problématiques de changement d'état de l'eau. Un autre axe, ça a été celui de la codisciplinarité. Et c'est l'articulation des savoirs mathématiques et biologiques dans les conduites des expérimentations. On se rend compte que le plus souvent, au cœur des expérimentations, il y a besoin de collecter des données, il y a besoin de les traiter. Et finalement, on utilise les mathématiques comme des outils qu'on n'interroge pas du tout, alors que ce sont les moyens de conduire de véritables apprentissages en mathématiques. Et puis, le dernier point, en fait, qui est rentré secondairement dans le projet, qui est les usages des surfaces tactiles pour l'enseignement des sciences, puisqu'en fait, ce sont en même temps des questions problématisées par le terrain, mais aussi des projets qui se conduisent dans les équipes et qui servent d'appui, puisque le projet Mallette et le projet Tactileo, en fait, sont conduits en lien dans ce LEA. Et on voit que ces différents projets, sous-projets à l'intérieur d'un gros projet, en fait, ont conduit à un certain nombre de communications et d'articles dans des revues scientifiques. Alors, le lien de ce projet avec la formation, il est assez fort, puisque depuis 2011 jusqu'à cette fin d'année, on travaille dans les réseaux d'établissements scolaires, périscolaires, sur la conception, l'expérimentation de ressources, et inévitablement, il y a un accompagnement des acteurs, donc une formation des acteurs. Le travail qui a été conduit à Dijon a aussi permis de nourrir, en fait, une formation de formateurs qu'on a proposé... sur ces deux années à l'IFE, sur des problématiques de démarche d'investigation et de codisciplinarité. Et sur l'année prochaine, en fait, l'objet principal de l'année prochaine, c'est justement de pousser les ressources pour l'enseignement à partir des analyses didactiques et d'en faire des ressources pour la formation qui servira d'appui à la conception de formation à l'échelle du département. Donc on sort de nos trois sites. Et étant donné que ces ressources seront en ligne sur le site du projet, en fait, ça permet aussi un rayonnement qui est national.
Alors, c'est moi qui vais prendre la parole. Moi, je suis chargée de vous parler de l'ensemble des actions de communication qui ont lieu dans le LEA à plusieurs niveaux, puisque donc dans les LEA, comme vous le savez, il y a une correspondante IFE, donc Michel, qui vient de vous expliquer la recherche, la formation, une correspondante LEA qui est moi-même. Et dans notre LEA particulier, nous avons en plus Madame Gollet, qui est donc chargée, on va dire, de chapeauter au plus près le travail en classe avec les enseignants, puisqu'elle est conseillère pédagogique sciences et responsable du centre de ressources sciences sur Dijon. Donc, sur la première diapo qu'on vous montre, justement, il y a nos trois noms. On a énormément d'interactions toutes les trois. On a chacune notre place dans ce LEA avec un rôle qui n'est pas le même et qui est complémentaire. Donc, nous avons énormément d'échanges, en général par mail et aussi par téléphone, hein, pour le fonctionnement. Et toutes les trois, en fonction de nos missions, etc., nous devons coordonner ce LEA. Donc nous avons aussi des liens avec les responsables des animateurs, puisque donc Michel vous l'a dit, notre LEA est ouvert sur le périscolaire. Donc nous travaillons aussi avec les animateurs du périscolaire et leurs responsables. Comme c'est un LEA qui a lieu avec le premier degré, donc des écoles de la maternelle au CM2 et du collège, nous avons des liens avec les IEN, les UN des circonscriptions où les écoles sont implantées, avec la DSDEN, hein, avec l'IEN adjoint à la directrice académique, des liens avec le CARDI, évidemment, pour travailler sur la mise en valeur de ce LEA, le faire mettre sur Experitech. Et puis des liens avec la ville de Dijon, puisque notre LEA est un partenariat entre la DSDEN, la ville de Dijon et l'IFE. Et également avec les actions de formation continue, puisque pour que le LEA vive, il y a des rencontres qui se font, des rencontres entre les enseignants et les chercheurs, et donc il y a des temps de formation, et donc nous avons besoin de travailler aussi avec les services de formation continue. Donc toutes les trois, nous travaillons avec l'ensemble de ces instances décisionnelles qui nous permettent de faire fonctionner le LEA. Merci. Alors justement, comment la communication se fait au sein de la recherche même, hein, dans le, on va dire, le niveau le plus fin, entre les enseignants, les animateurs de terrain, les formateurs et les chercheurs. Ces quatre sortes d'acteurs du projet de recherche ont l'occasion donc de travailler ensemble, déjà par les journées de formation qui ont été établis. Donc j'en parlais juste avant, il y a des liens avec ça, avec la formation continue, avec les IEN, avec la DSDEN, pour permettre la mise en place de ces formations, c'est-à-dire décharger les enseignants pendant 5 journées par an de travail pour travailler avec les chercheurs qui se déplacent. Donc il y a ces journées institutionnelles qui ont été posées. Il y a évidemment, ça vous le savez, nous avons tous des sites pour le Léa. Donc il y a le site collaboratif où les chercheurs, les enseignants, les formateurs, les animateurs peuvent déposer le travail qu'ils ont fait, soit tout seul pour le montrer aux autres, soit ensemble pour le montrer aussi aux autres. La messagerie électronique, bien évidemment, toutes ces actions de communication. Il y a tous les temps de réunion, puisque le fait de coordonner un Léa avec une ville, avec une DSDEN, avec du Cardi, avec des animateurs, etc., ça demande des temps de réunion et de concertation. Donc il y a tous ces temps-là de travail ensemble. Et puis les chercheurs, régulièrement, vont faire des temps d'observation et d'analyse sur site avec les enseignants, sur des séances de classe, avec visionnage vidéo, etc., et temps de travail. Donc ça, c'est l'ensemble de la communication qui se fait vraiment dans la recherche entre les différents acteurs. Et donc, le Léa, parce que c'est quand même un concept qu'il faut faire vivre, qu'il faut mettre en valeur, on en parlait en ce début de matinée. Ça demande des actions de communication vers l'extérieur. Donc, dès la création du Léa, la première chose que nous avons faite, c'est de contacter les services Cardi, puisque ils sont là pour l'innovation et l'expérimentation, donc ils ont toute leur place pour être partenaires avec nous, pour être un soutien. Et à partir de là, nous sommes entrés dans le réseau Respire, dans le réseau Experitech, afin de mettre en valeur ce projet. La communication extérieure, c'est également le fait de maintenir, on va dire, à peu près à jour les différents sites. Donc le site de l'IFE avec l'espace Léa, avec le site propre. Avant, il s'appelait Science 21, maintenant c'est le Léa Côte d'Or, mais bon, c'est le même nom. Enfin, c'est la même chose, avec des noms différents. Donc il y a la mise à jour régulière de ces sites avec les informations, les nouvelles choses qui s'y passent. Il y a le fait de créer des outils de présentation. Par exemple, pour le Léa, nous avons dû le présenter à différentes manifestations et nous avons créé un livret de présentation qui est disponible d'ailleurs sur notre site, que vous pouvez aller voir. Et nous allons devoir en refaire un autre un petit peu différent, modifié, pour le prochain forum. Donc justement, ça me permet de parler des différentes manifestations. De même que pour le précédent Léa qui vous a été présenté, nous avions été sélectionnés pour les journées de l'innovation à Paris pour faire une présentation de ce projet. Donc nous avons présenté. Nous allons faire un forum le 3 juin sur Dijon pour aussi présenter l'ensemble de bilan de 2 années du Léa à tous les partenaires et à toutes les personnes qui sont concernées par ces actions d'éducation. Et puis, il y a la journée aussi d'aujourd'hui où nous présentons notre travail. Et puis, la communication, c'est aussi le fait de mettre en place la convention. Les conventions, nous en avons eu 2, parce que il y a la convention tripartite du Léa, qui est la convention, on va dire, administrative de fonctionnement entre donc la ville, la DSDEN et l'IFE. Et puis nous avons fait une deuxième convention qui était une convention financière pour l'achat des tablettes, qui a été effectuée par la ville de Dijon. Donc une deuxième convention plus technique et plus financière entre juste les deux partenaires, IFE ville de Dijon, pour cet achat financier. J'ajouterai aussi que la communication à l'extérieur, c'est aussi de s'ouvrir aux différentes opportunités, aux différentes demandes. Nous allons bientôt communiquer à travers une émission de radio locale sur Dijon qui va diffuser en septembre, et également dans le café pédagogique, puisqu'on nous a demandé de répondre à une interview. Donc les actions de communication sont très diverses et très variées, et toutes les trois, nous avons chacune notre rôle à jouer dans ces différentes missions. Voilà.
Alors pour terminer, il me semble important de pouvoir donner la parole aussi à d'autres personnes qui ne peuvent pas être là. Agnès, elle pourra s'exprimer là, largement. Donc je vais donner la parole à Alban, qui est formatrice en fait au sein de notre projet.
Je suis donc deux enseignantes dans deux classes à l'école maternelle Alsace à La Fontaine d'Ouche avec des élèves qui sont issus de milieux très défavorisés, qui maîtrisent très peu la langue et qui sont vraiment aussi portés par ce projet science. Je crois qu'ils ont enfin compris ce qu'on veut leur apprendre. Ils mettent du sens à leurs apprentissages et ça c'est très intéressant. Un premier bilan, c'est d'abord pour ma pratique personnelle. Je pense que j'ai appris vraiment par rapport à la démarche d'investigation, ce que c'était, comment on pouvait la transposer dans des classes de petits, moyens et grandes écoles maternelles, ce qui est très intéressant et pas évident au départ. Et puis j'ai aussi appris à connaître des élèves de milieux différents, puisque je n'ai jamais travaillé dans ces milieux socioculturels défavorisés. J'ai aussi rencontré des chercheurs qui m'ont apporté beaucoup au niveau de la théorie et je commence à voir comment je pourrais former des personnes sur des projets pareils. Alors je pense que ce sont des projets qui sont vraiment porteurs d'avenir. Je pense vraiment que les élèves s'investissent dans ces projets et pourquoi pas après dans d'autres, pas forcément scientifiques. Je pense qu'on peut aussi se dire que des élèves qui ont participé à ce type de projet peuvent très bien après avoir envie de participer à d'autres projets, d'en créer eux-mêmes quand ils seront plus grands. C'est ça qui est intéressant.
Je donne la parole à Sylvie, donc, qui est enseignante en maternelle.
Une phrase à dire, continuons. C'est même un mot, continuons. Continuons l'expérience et les expériences de travailler ensemble. C'est fondamental, parce que quand on est tout seul dans sa classe, on croit qu'on fait mal, et puis en fait, des fois, c'est tout le contraire. C'est là où on a cru qu'on faisait mal, qu'émerge quelque chose, que quelqu'un d'extérieur va voir que c'est là qu'il faut justement... oui, mais t'as fait ça, mais c'est pas grave. Par contre, regarde ce qui est arrivé là. Ah, on n'avait pas vu. Et ça, c'est drôlement dynamique. Non, un grand merci pour cette expérience. Avec l'espoir voilà, que ça se continue. On l'a déjà dit, mais ça change nos façons de voir notre métier.
On nous a demandé de présenter en une feuille le Léa, donc je pense qu'il va être diffusé. Et il y a le lien vers le site dedans, vers le livret, pardon. Le lien vers le livret, donc vous pouvez le regarder et puis reprendre si la structure vous intéresse, si elle peut s'accorder à votre lien. Vous pouvez, voilà.
Henri. Oui, merci. Henri Louis Gaucourt, correspondant IFE pour École Freinet. Juste une question sur le. Vous avez parlé de convention financière entre l'IFE et la ville de Dijon.
Oui.
C'est vraiment l'IFE et la ville de Dijon qui sont les partenaires de la convention.
Donc on a une convention Léa administrative, comme on a dit, tripartite, mais on a effectivement une convention IFE, École Normale Supérieure et Ville de Dijon. Puisqu'en fait, la Ville de Dijon est partenaire depuis cette année seulement, sur la deuxième année, une fois qu'on a fait un peu nos preuves, est partenaire financière du projet et elle a permis l'achat, comme on vous l'a dit, de tablettes numériques en fait, d'un jeu de tablettes numériques, de 17 tablettes numériques, et assure une partie de notre fonctionnement, de nos ordres de mission, du fonctionnement du projet en fait. Donc c'est vraiment une convention financière entre les deux parties.
Et donc là, vous avez pu obtenir que cette convention soit signée avec l'IFE directement.
Oui.
Y a-t-il d'autres questions concernant cette présentation ? Catherine ?
Agnès va répondre à Catherine.
Non, je disais, la ville de Dijon a financé les tablettes, donc l'engagement de l'IFE, c'était par rapport au développement d'usage, c'est ça ? Dans la convention financière, c'est ça que je ne comprends pas.
Pourquoi la ville a financé les tablettes
en fait, la ville a financé les tablettes, mais l'IFE apporte quoi dans votre convention ?
Le fonctionnement de l'ensemble du projet, l'intégration du périscolaire,
c'est ça ?
La possibilité de... penser le projet de l'usage des tablettes dans le cadre du périscolaire.
Voilà. Donc ça, ils acceptaient de donner le matériel si vous, vous développiez le projet.
Le périscolaire. Et l'intégration des tablettes dans le périscolaire.
Je voulais juste rajouter que la ville de Dijon, pour préciser les choses et voir aussi pourquoi elle est présente, c'est parce qu'elle a une mission culture scientifique qui existe depuis un certain nombre d'années et qui justement développe sur les centres périscolaires des activités scientifiques. Donc elle avait ce souhait et nous, moi, le centre départemental de ressources en sciences travaille en partenariat avec la ville depuis fort longtemps. Donc effectivement, ce qui explique qu'elle est présente. Chacun a sa posture, sa position et défend aussi son terrain, je dirais. Ça, c'est important. C'est-à-dire que les enseignants de terrain ont des besoins, des attentes, que les chercheurs en ont d'autres et que nous, les formateurs, nous essayons, moi, j'ai eu l'impression de me situer entre les deux et de réajuster parfois les choses. C'est extrêmement enrichissant parce que jusque-là, en tant que formateur, je travaillais, je dirais, de manière isolée. Donc le fait d'avoir des apports théoriques sur la démarche d'investigation, ça m'a aussi permis de redéfinir certaines choses et puis de les réadapter pour peut-être les gens de terrain qui, eux, ont besoin d'un langage peut-être plus, simple. Pour être efficace dans leur classe. Voilà. L'idée dans ce projet, c'est pas que la recherche fasse son travail d'un côté, que les enseignants de terrain fassent l'autre et que nous fassions autre chose, c'est que nous soyons au service des élèves. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que l'idée, c'est que dans nos classes, on nous aide au mieux et on aide au mieux les collègues avec des apports divers de faire progresser les élèves et de les emmener vers autre chose. Alors je pense qu'on a construit beaucoup de choses collectivement. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés la première fois avec l'équipe de l'IFE, on essayait aussi de faire un petit peu un état des lieux de ce qui se passait à Dijon, de ce qui s'était passé dans ces sites, et d'évaluer pour ne pas refaire la même chose déjà et pour essayer de proposer des choses un petit peu plus innovantes. On n'a jamais travaillé comme ça sur Dijon. Donc déjà, c'est un point qui me paraît extrêmement important. Je pense aussi que ça redynamise des équipes. Après, les outils se construisent au fil du temps. Par exemple, là, dans la construction des ressources, c'est toujours un travail croisé entre l'équipe de recherche de l'IFE, entre nous, les formateurs, qui, à certains moments, ça nous paraît adapté, effectivement, en termes de formation, où il faut reconstruire des choses. L'IFE va repointer les choses et les incontournables sur lesquels il est indispensable de s'arrêter. On construit un outil. À l'heure actuelle, il n'est pas abouti. Les gens de terrain, les enseignants de terrain sont aussi là. On s'est rencontrés au cours de deux journées pour essayer de réajuster cette ressource. Donc oui, c'est la construction pour moi de nouveaux outils.
C'est des fiches de prêt.
Je crois que c'est une question complexe que tu posais et qui est difficile, on faudra en parler plus.
Michel. Véronique donnera son point de vue aussi sur cette co-construction.
Je voulais juste compléter par rapport à...
C'était par rapport à la co-construction, en fait.
Vas-y.
Donc c'est juste par rapport à cette question. Donc il s'agit bien d'une co-construction de la recherche et puis des outils qu'on met en place. Dans le cadre de Saint-Bel, on travaille sur un blog collaboratif sur lequel interviennent tous les acteurs, que ce soit les trois enseignants de Saint-Bel, l'enseignante de Béziers qui travaille sur le même projet et les chercheurs. Et donc c'est vraiment un endroit où on peut à la fois présenter le travail qu'on a réalisé, poser des questions, interagir entre enseignants à distance et interagir avec les chercheurs et chercher et construire ensemble. Voilà. C'était à peu près la même chose d'ailleurs.
Je voulais juste compléter par l'importance du temps de travail. Excuse-moi. L'importance du temps de travail et le fait que là, il y a des choses qui ont pu fonctionner parce que l'académie a mis 5 journées pleines de temps de travail aux enseignants et que les 5 formateurs qui sont engagés, c'est intégré dans leur mission, dans leur temps de décharge, c'est 30% pour travailler. Donc il faut vraiment des moyens aussi pour que les gens puissent travailler ensemble. Je voulais juste souligner ce point très important.
C'est indispensable.
Michel, une dernière intervention parce qu'on est un peu pris par le temps.
Michel Grangeat, donc de l'Université Joseph Fourier à Grenoble, et puis du Léa Evacodis, qui est pris en charge par le laboratoire de sciences de l'éducation que nous avons à Grenoble. Donc simplement pour aller un peu dans le même sens et prolonger ce qui a été dit précédemment, effectivement, ce qui frappe dans vos deux interventions, c'est que le fait qu'on soit sur un travail collaboratif, une coopération, si on revient à ce que j'avais présenté il y a un an dans les journées précédentes, dans mon intervention, une coopération, puisque chacun se répartit une tâche vers un même but, en respectant les spécificités de chacun, et c'est ça un des enjeux et une des difficultés.
Ça, c'est important.
Oui, c'est important, oui, en respectant les spécificités de chacun, les apports de chacun. Une coopération donc horizontale, parce qu'on essaye de faire en sorte de gommer les différences hiérarchiques dans ce travail-là.
Elles n'apparaissent pas, en tout cas.
Oui, oui, on essaye de faire en sorte qu'elles n'apparaissent pas. Mais c'est un enjeu, c'est pas évident à mettre en place tout le temps. Ça, c'est le mode de travail, effectivement, des Léa. Par contre, je pense que si on veut comprendre la spécificité, il faut donner une orientation à ce mode de travail. Et il me semble qu'en regardant, enfin en vous écoutant, et puis aussi en réfléchissant au bilan, là, en lisant les bilans, et puis ce qu'on fait nous sur Grenoble, c'est qu'on est tourné vers la co-conception d'outils avec une pensée usage, tout de suite. Et c'est pour ça que ça diffuse rapidement. Parce que dès le départ, les différents intervenants se disent qu'il faut que ces outils puissent être en usage dans les classes. Il faut que les praticiens, même s'ils ne sont pas directement dans l'équipe, puissent s'emparer de ces outils. Et je pense que c'est notre originalité des Léa. Si on cherche, on parle de grands instruments, comme parlait Luc Trouche tout à l'heure, ou Yves Vinquin, Michel Dussault, pardon. C'est tout à l'heure. Michel Dussault, oui. Oui, Michel Dussault, j'ai bien dit Michel Dussault, non? Hein? Oui, j'ai dit Michel Dussault. Donc, ce que disait Michel Dussault autour du grand instrument, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que c'est pour co-concevoir des outils, des instruments pour l'enseignement, en concevant l'usage dès le départ. Après, il y a toute la question des méthodologies de recherche. Je pense qu'il ne faut pas confondre cet objectif-là, co-construction d'outils pour l'usage, et méthodologie de recherche. Là, c'est vraiment une grosse question, effectivement.